Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
On est aujourd'hui dans le deuxième dimanche de l'Avent. C'est une tradition qui s'est un petit peu perdue, qu'on a un peu oubliée dans le monde évangélique, mais une tradition qui est riche de sens. Les quatre dimanches qui précèdent Noël sont des dimanches qui sont appelés de l'Avent. L'Avent, pas pour avant Noël, mais pour Adventus, pour l'arrivée en fait, en latin. Et on se réjouissait de l'arrivée de Jésus-Christ. Et les quatre dimanches avaient, en fonction de l'époque et puis des traditions, des significations différentes. Il y avait notamment la notion du pardon, la notion de la foi, la notion de la paix, la notion de la joie, la notion de l'amour, la notion de justice. Donc c'est toutes ces choses qui sont encapsulées dans cette période de l'Avent. Et ma prière pour nous, en tout cas, c'est de cette façon que je l'ai vécu dans cette deuxième semaine de l'Avent, que sa paix soit réelle pour chacun d'entre nous. Et je ne sais pas si c'est la même chose chez vous que chez moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un stress, il y a une urgence, il y a presque une oppression avec la période de Noël. Il faut absolument, il y a encore un apéritif, il y a encore des rendez-vous, il ne faut absolument pas oublier ça, et puis vite, il faut encore qu'on fasse ça, et puis il faut vite, puis est-ce que tu as fait les cadeaux, et puis ah, il est nocturne, c'est encore plus longtemps ouvert, et puis il faut profiter, puis il faut consommer. Et moi, je disais, Seigneur, que ta paix soit réelle dans mon cœur, que je puisse être un agent de paix là où tu m'as placé, et j'étends cette prière à chacun de vous. Que dans cette période de l'Avent, on ne soit pas simplement pris par la folie et la frénésie de l'Avent, mais qu'on puisse rester dans sa paix, en particulier dans cette deuxième semaine. Si vous avez vos Bibles, je vais vous inviter à les ouvrir à l'évangile de Matthieu. Je viens de lire la dernière phrase de l'évangile de Matthieu. On est dans le même évangile, on sera au chapitre 9, et on va lire les versets 35 à 38. Si vous n'êtes pas familier, vous verrez la Bible, c'est fascinant. Régulièrement, on vient aux évangiles parce qu'en fait, les évangiles nous racontent l'histoire de Jésus. Le temps de Jésus en particulier, le temps qu'on dit qu'il a passé sur terre, mais en vrai, on se concentre surtout sur 3 années de sa vie, qu'on appelle son ministère. On a quelques éléments un petit peu avant, un petit peu après, mais c'est principalement 3 années de la vie de Jésus. Ça se répète 3-4 fois dans la Bible parce que c'est vraiment important. Et Matthieu, c'est le premier qui nous en parle. Et je ne vais pas vous donner trop de contexte, je vous propose simplement de lire ces quelques versets calmement. Matthieu 9, les versets 35 à 38. Si vous n'avez pas de Bible, ça va s'afficher au-dessus de ma tête, et je vous encourage à vous procurer une Bible, on aurait du plaisir à vous en donner une. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Bienvenue au dimanche de la mission. On n'est pas dans une série, on va simplement parler de mission ce matin ensemble. Et s'il y a eu cette petite installation derrière moi, c'est parce qu'il va y avoir 3 personnes qui vont me rejoindre par la suite pour en parler. Donc je vais vous donner un petit moment autour de ce concept-là, de cette notion-là. Puis ensuite, on sera 4 à discuter de ça avec vous tous. Mais quand on lit ces versets, c'est difficile de ne pas voir ou de ne pas comprendre Jésus comme un homme en mission. C'est difficile de ne pas réaliser à quel point Jésus était lui-même en activité, en mission. Ce n'est pas possible de le lire autrement. On voit qu'il parcourait ville et village. On voit qu'il annonçait largement la bonne nouvelle. On voit qu'il guérissait les malades et les infirmes. On voit que régulièrement, il était entouré, il s'adressait aux foules. Jésus était clairement en mission. Et on voit Jésus passionné et manifestant la compassion là où il va. Jésus en mission. Et c'est important de savoir, la Bible nous dit que Jésus, ce n'est pas juste Jésus. Je ne vais pas aller dans tous les passages avec vous en détail, mais la Bible nous dit que Jésus était l'image visible du Dieu invisible. Ça, vous pouvez le trouver dans vos notes, vous pouvez marquer, c'est de Colossiens 1, verset 15. Donc Jésus n'est pas simplement un homme quelconque qui se sent animé d'une mission. On nous dit littéralement, il est l'image de Dieu. Il il est Dieu incarné. Et Jésus lui-même dira autre chose d'assez fascinant. Il dira lui-même, je ne fais rien que je ne vois le Père faire. Donc si Jésus fait tout ça, ça et qu'il dit je ne fais rien que je ne vois le Père faire, ça veut dire qu'il voit le Père vouloir faire ça. C'est pas juste, je me réveille un matin, je me dis, bon là c'est bon, j'en ai marre, je vais faire quelque chose. Non, non. Je vois mon Père faire certaines choses et moi, je ne peux pas faire autrement que de faire ces choses-là. Donc si Jésus est en mission et que si Jésus est l'incarnation de Dieu qui nous révèle qui est Dieu, on doit reconnaître que Dieu est un Dieu en mission. Dieu est un Dieu en mission. J'espère que je choque personne parce que ce concept n'est pas du tout nouveau. C'est un concept qui est largement connu, reconnu théologiquement. On appelle ça la missio Dei. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu missio Dei ? Quelques mains, ça marche. Alors pour tous les autres, petit cours. La missio Dei, ça vient du latin et c'est notamment la mission de Dieu. Le terme est souvent utilisé pour expliquer le fait que Dieu n'est pas un Dieu passif, c'est un Dieu qui est en action, qui se veut en action. Et en fait, quand on souligne cette notion-là, ce qu'on veut nous dire, c'est que Dieu poursuit une mission qu'il a, un dessein, qu'il a une intention pour le monde. Et souvent, quand on en parle, c'est pour dire que nous devons faire partie de cette mission de Dieu. Ça inclut des concepts comme la rédemption, la réconciliation, la justice sociale et l'amour pour l'humanité. Et ça signifie qu'on ne peut pas réfléchir. Si on se prétend disciple de Jésus, on ne peut pas réfléchir sans penser au monde. Je vais répéter ça parce que je crois que vous n'avez pas tout. Si on se considère disciple de Jésus, on ne peut pas suivre Jésus sans avoir compassion pour le monde. Si Jésus était en mission, on ne peut pas nous prétendre que ça ne nous concerne pas. Parce qu'au passage, chrétien veut dire petit Christ, petit Jésus. Et ici, pour tous les familiers, vous savez qu'on dit notre but en tant que disciple de Jésus, c'est de ressembler toujours plus à Jésus. La Bible nous dit non seulement qu'il était en mission, et on vient de le voir ici dans les deux premiers versets, mais j'aimerais prendre maintenant un tout petit peu ce qu'il dit juste après. À la fin du passage, c'est pas simplement qu'il est en mission, mais il va interpeller ses disciples sur cette mission. Pensez bien que les disciples sont des gens qui ont suivi Jésus, qui vivaient quasiment 24 heures sur 24 avec Jésus. Ils l'ont accompagné dans cette mission. Donc quand on nous dit Jésus allait de ville en ville, de village en ville, sans doute que les disciples étaient avec lui. Quand on nous dit Jésus guérissait, sans doute que les disciples étaient avec lui. Donc les disciples ont vu tout ça, mais ça ne suffisait pas de voir. Jésus va les interpeller et dit, à quelque part, c'est moi qui reformule ici, « Voyez vous-même, il manque des ouvriers ». J'imagine Jésus peut-être un peu fatigué quand il dit ça. Il va à gauche, il va à droite, il représente le Père, il a compassion pour les gens, puis il regarde ses disciples et il dit, mais bon sang, il faudrait que du monde se lève. Il manque des ouvriers. Puis ensuite, il va dire, priez que le Seigneur envoie des ouvriers. Et quand il dit ça, je crois qu'il est en train de dire, comprenez le cœur de mon Père. Comprenez le souci de mon Père. Et je crois que ce n'est pas simplement une interpellation. Puis les disciples n'ont pas dû se dire à la fin, bon, on va lancer une veillée de prière. Les disciples n'ont pas dû se dire, bon, je pense que c'est important qu'on fasse un plan biblique pour qu'on en parle un peu plus. Vous avez tous YouVersion ? On le fait en commun, ça va ? Je pense que les disciples n'ont pas dû simplement se dire, t'as raison, on va prier. Ils ont dit, on va prier, mais c'est une interpellation, c'est une invitation. Je pense que si sincèrement tu te mets dans les baskets de Pierre, je sais Pierre n'avait pas de baskets, c'est dommage, mais si tu te mets dans les baskets de Pierre, un instant, Pierre a dû se dire, j'ai envie de faire partie de ces ouvriers. Je pense que Pierre a dû dire, tu peux compter sur moi. On va y aller. On va y aller, non seulement on va prier, mais on va aussi y aller. Et c'est une invitation pour nous aussi d'être en mission. Je pense qu'on doit recapturer un esprit missionnel en tant que disciple de Jésus-Christ. On doit comprendre que d'être en mission, ce n'est pas une option lointaine, ce n'est pas une révélation pour certains, ce n'est pas un mandat pour les chrétiens plus. C'est notre appel à tous d'être en mission si on suit sincèrement Jésus-Christ. Dire oui à Jésus, ce n'est pas seulement « Hey, merci Jésus pour le salut ». Ce qui est magnifique au passage et ce qui est fondamental, oui, c'est très bien. Ce n'est pas non plus « Merci parce que tu me réconcilies avec le Père et maintenant je peux parler au Père », ce qui est très bien et magnifique. Ce n'est pas « Merci parce que tu donnes un sens à ma vie », ce qui est magnifique et très bien, mais c'est aussi « Oui, je te suivrai ». C'est aussi « Ce qui est important pour toi sera important pour moi ». Et si Jésus nous révèle un Dieu en mission et si nous suivons ce Dieu, nous devons nous aussi être en mission. Est-ce que vous avez déjà attendu avec... Tu voulais que quelqu'un dise oui à ta question. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà espéré un oui? OK, il n'y a pas assez d'étudiants dans la salle, je crois. Tu sais, ce moment où tu vas sur le module, sur Internet pour voir est-ce que j'ai réussi mes examens. Tu t'attends à un oui. Tu espères un oui. Et si c'est la fin, en plus, du bachelor ou du master, tu veux un grand oui. Parce que tu prévois déjà la suite de ton parcours. Moi, je me rappelle de la fois où j'ai demandé ma femme en mariage. J'attendais aussi un oui. J'espérais un oui. Et puis, alors bon, je vais peut-être en surprendre quelques-uns ici, mais je suspectais un oui. D'accord ? Pour tous ceux qui ne savent pas comment ça se passe, en général, on en parle un petit peu avant, tu sais, c'est un petit peu des projets, on est d'accord, on va dans cette direction, oui, non, comment tu le sens ? Donc, je savais qu'on allait là-bas, mais j'ai voulu vivre un beau moment pour elle. Alors, les amis, c'était avant Instagram et tous ces trucs de tout le monde a une caméra sur lui. Donc, je n'ai pas d'image de ce moment-là, à part dans mon esprit. C'est sans doute les plus belles images qui soient. Mais je me souviens encore, je voulais que cette journée soit spéciale. Je suis allé la chercher à son travail. On est allé boire un petit verre, je préparais. En moi, il y avait une excitation, un stress aussi. Même si j'étais convaincu à 99,99% qu'elle dirait oui, je me disais, et si ? Et si c'est pas le bon moment ? Et si ça se passe pas bien ? Puis du coup, ouais, j'avais préparé tout ce moment, c'était incroyable. Et voilà le fameux moment où je mets un genou au sol. Je la regarde, je lui dis « Est-ce que tu veux être ma femme ?» Et là, elle me dit « Je vais prier. » Non, c'est pas vrai. Elle n'a pas dit « Je vais prier, c'est pas vrai. » Mais non. Elle se met à pleurer, elle me dit « Oui, bien sûr, on se prend dans les bras, c'est la fête, on continue, il y avait des amis qui nous attendaient, voilà. » Mais il y a des choses pour lesquelles on désire un vrai oui. Et les amis, je crois qu'on ne réalise pas à quel point Dieu attend notre oui pour la mission. À quel point Dieu, lui aussi, est là. Est-ce que vous êtes d'accord de dire oui, les amis ? Est-ce que vous réalisez que mes enfants sont là ? Il y a toutes ces personnes qui sont déconnectées de moi, toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces personnes qui vont bien. Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller les aider pour moi ? Puis je crois que Dieu attend désespérément notre oui. Je crois que Dieu attend notre oui pour l'accepter et l'accueillir comme sauveur et seigneur, mais il attend notre oui pour ce mandat dans le monde. Dieu est un Père qui a une énorme compassion. Relisez le verset 36. Jésus regarde et il fut rempli de compassion pour les foules. Moi, ça me pose une question. Comment est-ce qu'on voit le monde qui nous entoure ? Lève pas la main, mais combien ici pourrait dire des fois on les voit comme des gens qui nous ennuient un peu ? Des gens qu'on préférait peut-être ne pas voir ? Des gens qui, on espère, vont pas nous... Alors, on a maintenant tous des écouteurs, des headphones, des choses comme ça. Donc, on baisse la tête, on dit, j'espère qu'il va pas me voir. Mais je crois que c'est pas le cœur de Jésus, en fait. Jésus regardait les foules. Et il était rempli de compassion. Et il les voyait dans leurs besoins, il les voyait dans leurs problèmes. Et puis, il voulait répondre à ça. Je répète ma question, est-ce qu'on a un état d'esprit missionnel ? Alors, on va parler dans un tout petit instant, je veux juste aller un petit peu plus vite ici. Et je crois qu'on a besoin de recomprendre la notion de mission. Parce que pendant longtemps, la mission, c'était partir loin. Pendant longtemps, on entendait mission, puis on disait, ah, il faut partir loin. Il faut partir dans un pays qui ne parle pas ma langue, dans une culture qui n'est pas la mienne. Et puis ça, c'est la mission. Et du coup, on pensait que c'est seulement les courageux, audacieux qui n'ont pas de projet de vie. Je pense qu'on a un peu été trop marqués. Il y a eu différentes vagues missionnaires, si vous étudiez l'histoire de l'Église, et on a été beaucoup marqué par la vague missionnaire du protestantisme au XIXe siècle, juste après la découverte du monde et puis les moyens de transport qui étaient là. Malheureusement, en parallèle avec l'horreur du colonialisme, il y a eu des efforts missionnaires. Et pas toujours pour des scènes de motivation, je le souligne, mais il y a eu des efforts missionnaires. Et on voyait des missionnaires partir dans des régions lointaines comme l'Asie, comme l'Afrique, comme l'Amérique du Sud, par exemple. Et aujourd'hui, certains efforts missionnaires existent encore pour des régions où, effectivement, il y a peu accès à la Bible. Il y a encore des endroits où les gens n'ont aucune idée de qui est Jésus. Et du coup, il y a encore besoin de cet effort-là. Et il y a des gens, même ici, on a des gens qui partent pour du court terme, moyen terme, voire du long terme. Plusieurs ici, vous connaissez Gilles et Mathilde, qui sont maintenant au Mexique depuis 2 ans, dans un effort missionnaire. Mais il y a 3 choses importantes qui se sont produites, qui font qu'on ne peut pas penser que la mission, c'est seulement loin. Il y en a plein d'autres, mais j'en souligne 3 avec vous, juste pour une question de temps. La première des choses qui s'est passée, c'est qu'on a réalisé le lien trop étroit entre colonisation et mission. Le but était d'amener la bonne nouvelle. On a imposé notre culture. Et ça, c'est un problème. Et du coup, à cause de ce problème, il y a beaucoup qui disent « Ah non, c'est plus pour moi alors, c'est plus pour moi. » Mais je pense que c'est aussi un problème de dire « c'est plus pour moi. » Parce que la bonne nouvelle, on a toujours besoin de l'annoncer. Mais à cause de ça, on a pris un pas de recul par rapport à la mission. Et surtout largement ou loin. Ensuite, ce qu'on a vu aussi, la deuxième chose que je veux souligner, c'est qu'il y a, avec la globalisation, avec des moyens qui sont devenus toujours plus faciles de voyager, le monde qui est toujours comme plus petit, mais aussi à cause de différentes crises, on a observé des vagues migratoires. Ce n'est pas la mission. Mais on a vu des gens de cultures différentes venir très proches de chez nous. Et du coup, il n'y a plus forcément besoin de partir très très loin. La plupart de vous, vous avez des gens qui sont en contact avec vous quasi quotidiennement, peut-être même des voisins de palier, qui n'ont aucune connaissance du christianisme. Donc ce n'est pas seulement partir loin à la mission. Des fois, c'est juste dire bonjour à son voisin à la mission. Et finalement, il y a eu deux gros changements dans la société qui sont passés, qui sont apparus. Le premier, on pourrait le lier au post-modernisme, au post-christianisme, on en parle souvent ici. Mais c'est un peu cette idée que les valeurs et les croyances héritées de la tradition judéo-chrétienne ne sont plus transmises aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on grandit dans un monde où dans une culture, même ici, chez nous, où en fait, on l'a dit des fois comme ça, l'église n'est plus au milieu du village. Donc ça veut dire que les gens n'ont plus de notion, n'ont plus de compréhension, n'ont plus de connaissance de ce que c'est que le christianisme. Vraie histoire, vraie. J'ai rencontré dans cette église, dans cette salle, un jeune homme de 19 ans, suisse, qui a grandi en Suisse, qui était à l'université, qui est venu me dire, c'est quoi ce livre desquels tu parles? Je dis, ça s'appelle la Bible. Et il m'a dit, c'est incroyable, ça a l'air bien, où est-ce que je peux trouver la Bible? Donc c'est juste pour vous dire, hein, c'était quelqu'un qui a grandi ici, en Suisse, qui a fait ses études en Suisse, qui ne savait pas ce que c'était que la Bible. Et qui était impressionné de savoir qu'on pouvait l'acheter même à Payot. Donc ça, c'est un des mouvements dans la société qui s'est passé, mais il y a eu aussi un changement générationnel avec la génération Y, qui fait qu'aujourd'hui, certains experts de ce qu'on appelle la missiologie, donc toutes les études et puis la réflexion autour de la mission, disent qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de géographie, c'est une question de démographie. Ça veut dire que la plupart des gens qui ne connaissent pas l'Évangile sont simplement des jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas seulement des gens loin, c'est simplement des jeunes. Des gens qui ont grandi à l'heure de TikTok et qui, même s'il y a des comptes plus ou moins bien sur TikTok, n'ont pas accès à l'Évangile. Donc à cause de ça, à cause de ces trois éléments, en tout cas, personne maintenant ne peut me dire « mais la mission, c'est pour ceux qui partent loin ». Tu ne peux plus dire ça. Ça ne tient pas la route de dire ça. La mission, c'est pour nous tous. Et devine quoi, même si tu n'as pas envie de partir loin, même si tu ne te sens pas appelé à apprendre une nouvelle langue, même si tu as... C'est aussi pour toi. Il n'y a pas d'excuse à ça. Donc je vous ai donné beaucoup d'infos pour vous dire la mission ne peut plus et ne doit plus se comprendre uniquement comme partir au loin, mais vraiment comme rejoindre notre prochain. Et ce prochain, ce n'est pas seulement une personne qui vit dans un pays où on ne parle pas ta langue, mais c'est peut-être ton collègue, ton voisin ou même un membre de ta famille. Et la clé qu'on découvre dans ce passage qu'on a lu plus tôt, ce n'est pas avoir des bonnes stratégies, mais avoir un cœur au bon endroit. Trop souvent, on est là, c'est quoi la stratégie? J'ai envie de dire, laisse tomber la stratégie, pose la question de ton cœur. Parce que regarde ce qu'il nous est dit. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Je ne pense pas que Jésus a dit, bon, venez les gars, on va faire une réunion, brainstorming, à votre avis. Est-ce qu'on va faire une campagne marketing sur Insta ou bien comment est-ce qu'on va faire? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de... Non. Il marchait, puis il était rempli de compassion, puis il a dit, on doit faire quelque chose pour ces gens-là. Et si vous regardez la stratégie de Jésus, c'est la stratégie du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois, il faisait différemment. Il est très embêtant pour ça, Jésus. Tu veux le mettre dans une box et il dit, non, c'est pas vraiment ça. Alors tu dis, est-ce que je dois parler dans la rue? Ben, en fait, Jésus l'a fait à certains moments. Est-ce que je dois m'intéresser à la veuve et l'orphelin? Jésus l'a fait aussi. Est-ce que je dois... Donc il y a plein de stratégies. La question, c'est la question de, où est ton cœur? Et c'est notre appel à tous. Alors maintenant, pour en parler concrètement, je vais inviter Seb, Anaya et puis Pauline à me rejoindre. Venez, venez, venez. On peut les applaudir, les encourager. Alors, je vais vous poser des questions. Comme ça, ils savent aussi, ils ont la même information que vous. Je vais poser une question à l'un d'entre eux. Mais après, les autres peuvent interagir. S'ils n'interagissent pas, ce n'est pas ma faute, d'accord? Puis j'ai trois questions, donc chacun aura une question. D'accord, je ne veux pas... Mais pourquoi elle n'a pas dit plus ou il n'a pas dit plus? Si vous voulez qu'ils en disent plus, vous allez les voir après. J'aimerais commencer avec toi, Seb. Quelle est ta compréhension à toi du cœur missionnel? Est-ce que c'est une évidence? Est-ce que tu avais conscience de ce mandat en tant que disciple? J'aimerais surtout savoir, est-ce que c'était quelque chose d'intentionnel ou de naturel pour toi que de regarder et de considérer ton prochain, peut-être en lien avec des valeurs, avec ton éducation? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as dû peut-être avoir comme une forme de révélation puis dire, je vais travailler ça?
Bonjour. Je dirais, en fait, mon père était missionnaire. Donc, lui, c'était dans le cliché que tu décrivais avant d'aller en Afrique, même s'il n'imposait pas sa culture. Et puis, du coup, moi, j'ai grandi avec cette image du missionnaire. Et en fait, je crois, en réfléchissant à ce que tu disais, je voyais un peu trois sphères ou trois niveaux pour la mission. Et d'abord, je dirais, en fait, la mission, d'abord, ça se passe de notre cœur. En fait, il y a toujours des parties de notre âme qui ont besoin d'entendre l'évangile. Je crois, l'autre jour, j'écrivais tous mes péchés de la semaine. Je ne sais pas si vous faites ça souvent, moi, c'était... J'avais l'impression qu'il fallait que je le fasse. J'étais apuré, j'ai tellement besoin de Dieu. Vraiment. Et en fait, je crois... je l'avais partagé ici, il y a environ une année à Home. Il y a plusieurs années, j'ai fait une dépression et puis un burn-out. Et là, je me suis dit, en fait, là, dans ma vie, maintenant, j'ai besoin de Dieu. Et je crois que c'était aussi un moment où je n'étais pas en paix avec l'Église. Puis j'étais, les gars qui vont dans la rue et tout, ça me saoule, je n'ai pas envie de faire la même chose. Tu vois. Donc, je crois que la première chose, c'est le cœur. Et puis, mais si on s'arrête là, ça devient de l'individualisme. Vraiment. Et ensuite, je crois que la deuxième chose, c'est... c'est l'Église, en fait. C'est, en fait, en tant qu'Église, on porte de l'espoir. On est une communauté où on peut partager, se soutenir les uns les autres. Franchement, je crois, aujourd'hui en Suisse, il n'y a aucun autre type de communauté où il y a autant de gens différents qui se rassemblent au même endroit pour la même raison. C'est un truc de fou. C'était marrant, il y a 10 jours, j'étais au marché de Noël, pas loin, avec un pote, et Alain Berset... donc, si jamais, c'est le conseiller fédéral actuellement président de la Suisse. Et puis, puis on était dans une conférence comme ça. Puis, j'avais lu un livre il n'y a pas longtemps de Hartmut Rosa, je vous recommande, « Pourquoi la démocratie a besoin de religion ?» Du coup, j'ai dit, alors, entre nous... Non, j'ai pas dit ça. Je lui ai posé la question, « Monsieur, est-ce que vous pensez que la démocratie a besoin de religion et de spiritualité, au-delà de la laïcité ?» Moi, je crois vraiment à la laïcité. Lui aussi. Et il commence à répondre, et puis à la fin, il dit, mais je crois, en fait, on a besoin de l'Église, parce qu'elle donne de la structure et des repères, des valeurs dans une société qui déconstruit tout. Et moi, je suis là, mais en fait, là, c'est le président de mon pays qui vient de me dire la mission de l'Église, tu vois. Et je crois que c'est juste, on a besoin de s'accrocher à ça. Mais si on reste uniquement à ça, c'est du communautarisme. On reste fermé sur nous, vraiment. Et du coup, ensuite, je crois qu'il y a le troisième niveau où je réfléchissais. Quand j'avais 20-21 ans, il y a trois personnes de mon entourage, quasiment le même âge que moi, qui ont choisi de mettre fin à leur jour, qui se sont suicidés. C'est la première cause de décès des jeunes Suisses de entre 15 et 25 ans, c'est le suicide. Je trouve ça dingue. Et vraiment, j'étais là, mais ok, en fait, il y a des gens autour de moi qui souffrent, et ça ne se voit pas forcément aussi. On est en Suisse, donc ça ne se voit pas. Et en fait, j'étais là, mais ouais, on a besoin de ça. L'autre jour, c'était marrant, j'étais dans un couvent pour une petite retraite quelques jours. Et puis, j'étais avec une sœur là-bas, sœur Diane, elle est géniale. On était dans l'abri anti-atomique en train de jouer au billard et boire des bières. Et puis, on se racontait un peu notre vie. Et puis, elle vient de France. Puis, elle se sentait appelée en Suisse. Et elle trouvait ça tellement nul. Elle était là. En fait, à ce moment-là, elle était dans un foyer. Et puis, il y avait des jeunes de la rue qui venaient, certains qui se convertissaient et tout. Elles vivaient des choses super. Puis, d'un coup, elles se sont appelées en Suisse. Et puis, elles trouvaient ça nul. Elles étaient, mais tout qui se passe bien en Suisse, il n'y a pas de problème. Elle est arrivée ici, elle a pleuré 2 ans. Et ensuite, les deux ont parlé du coût de sa mission pour la Suisse. Et puis, en fait, on est arrivé un peu à la conclusion en mode, si la Suisse est bien travaillée, être polie, pas trop déranger son voisin, si on considère ça comme valeur chrétienne, alors ouais, là, je pense que c'est bon, on peut aller à l'étranger. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. Et du coup, je me suis dit, dans Galates 5, 22, 23, il y a les fruits de l'esprit. Et en fait, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et du coup, je me suis posé la question, c'est quoi en Suisse? À quoi ressemblent ces fruits en Suisse? Et si on prend le premier, l'amour, en fait, en 2016, 36% des Suisses se sentaient seuls. Et ça fait qu'augmenter. Il y a un manque d'amour en Suisse. La joie. Au minimum, 20% de la population suisse montre des signes dépressifs. On a besoin de joie, les amis. La paix. Pour le coup, on est plutôt bien placé. Il y a 2 à 3% quand même d'augmentation de violence par année, dont 70% des victimes sont des femmes. La patience. 28% des actifs sont considérés comme dans une zone de stress critique pour la santé. On n'arrive pas à vivre ces fruits, les amis. La bonté. Selon un rapport, la Suisse est placée 76e sur 120 en ce qui concerne la générosité et l'aide aux prochains. On est dans le quart inférieur, au niveau mondial. Hein. La fidélité. On considère qu'environ un quart des personnes en Suisse ont trompé leur partenaire actuel. Environ la moitié, au moins une fois, ont trompé leur partenaire dans leur vie. La douceur. 42% des femmes et 24% des hommes ont déjà subi des violences dans leur couple. La tempérance, donc c'est la modération des plaisirs. Une personne sur 30 en Suisse est alcoolique. Une personne sur 30 joue excessivement aux jeux d'argent. Et une sur 50 mange trop, comme pour compenser un vide intérieur. Moi, ça me pose des questions. Ça, pour moi, tout ça, c'est des raisons comme quoi notre mission, eh ben, elle a lieu, elle fait totalement du sens d'être ici. Et je crois, c'était trop bien dans ce couvent, parce que j'étais avec cette femme catholique, et puis on parlait de notre relation au monde. Et en fait, je crois qu'on a besoin des deux. Pour les évangéliques, notre relation au monde, un peu comme nous, c'est l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle. Et pour les catholiques, c'est beaucoup la charité. Donc c'est l'amour, donner sans rien attendre en retour. Et je crois qu'on a besoin des deux, de l'évangélisation et de la charité. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Peut-être pour finir la réponse à ta question, c'est... là je commence à être long, pardon. Mais pour être très franc, pour résumer, amassons des richesses au ciel, les amis. Si ça se trouve, ce soir je sors du culte, ce matin je sors du culte, je me fais shooter par un bus, ma vie elle est finie. Notre vie sur Terre, elle est brève. Dans 30 minutes, peut-être que je suis mort. Sérieusement. On rigole, mais sérieusement, ça nous fait peur. Notre vie sur Terre, elle est rien du tout. Et qu'est-ce qu'on veut? Moi, je vois malheureusement trop de chrétiens qui sont plus préoccupés par leur prochaine augmentation ou leur prochaine destination de vacances que par établir le royaume de Dieu. Et je crois qu'on a besoin de grandir. Donc, ce que je dirais, c'est Saint François d'Assise, il disait « Prêcher l'évangile en tout temps est seulement nécessaire, utiliser des mots. » On a besoin d'agir et pas de parler uniquement, vraiment. Donc voilà, ce serait ça ma conclusion.
Donc ça, c'est la partie 2 du message. Si vous vous demandiez, il y avait la suite du message. Merci, Seb. Anaya, Pauline, est-ce que pour vous, être en mission, c'est quelque chose qui était naturel, normal, ou bien vous avez dû aussi peut-être considérer, réfléchir, vous approprier ça? Je vous laisse.
Bonjour tout le monde. Moi, je dirais que pour moi, quand j'étais plus jeune, il y avait une sorte de pression et de culpabilité quand j'entendais parler de la mission et quand je m'imaginais être en mission. parce que j'entendais beaucoup de témoignages, justement, comme tu as dit, de missionnaires qui allaient à l'autre bout du monde, ou des témoignages incroyables de personnes aussi en Suisse ou qui allaient dans la rue, qui voyaient des miracles, et c'est génial. Mais je n'arrivais pas à m'identifier à ça, et je ressentais beaucoup de culpabilité par rapport à ça. J'avais l'impression que j'étais une mauvaise chrétienne, que je n'arriverais jamais, etc. Et en fait, quand j'ai réalisé que Dieu voulait m'utiliser, moi, avec ce qu'il avait mis dans ma vie, avec mes forces, mes passions, mes faiblesses, et que ça n'allait pas ressembler à tout ce qu'il y avait autour de moi, que c'était quelque chose d'unique qu'il avait mis en moi, ça m'a vraiment... Ouais, j'ai eu un soulagement énorme par rapport à ça, et de me dire qu'en fait, ce que Dieu avait mis dans ma vie, c'est qu'il n'y a que moi qui pouvais l'apporter dans ce monde, et qui, voilà, là où il m'avait placé, il n'y a que moi qui pouvais apporter les valeurs du royaume de Dieu là où j'étais. Et ça, c'est quelque chose que je dois me rappeler constamment, parce qu'on peut vite, aussi avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a autour de nous, on peut vite se comparer et puis avoir l'impression qu'on n'est jamais assez. Et du coup, on a besoin de la grâce de Dieu, savoir qu'on est, on est des humains, qu'on a nos faiblesses, mais que ouais, qu'il veut nous utiliser. Et en fait, quand on réalise qu'on est tous uniques et qu'il veut utiliser chacun et chacune de nous, c'est fou. Enfin, moi, quand j'ai des moments de réalisation de ça, je me dis « waouh, en fait... » Enfin, c'est incroyable, merci Seigneur, et en même temps ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de responsabilité aussi, et ça me rappelle à quel point j'ai besoin de lui en fait, parce qu'avec mes propres forces j'arrive pas. Donc je pense que j'ai eu une évolution de la vision que j'avais de la mission qui fait que c'est beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus léger, même si c'est toujours une certaine que ça m'apporte parfois de la culpabilité et je me sens parfois pas assez, mais voilà, c'est ce moment-là où j'ai besoin de retourner vers Dieu et de me dire, en fait, Dieu, comment tu veux m'utiliser là où je suis? Je n'ai pas besoin d'attendre d'être à un endroit, d'être dans un autre pays, d'être pasteur sur scène, je ne sais pas. J'ai juste besoin que tu me remplisses en fait, aujourd'hui pour que je puisse donner là où je suis.
Merci. Non? Ok, bah, tu veux rien dire? Vas-y, Anaya.
Je pense que c'est quelque chose qui était assez instinctif chez moi, et je pense que j'étais beaucoup plus à l'aise avec la charité, même si j'ai grandi dans un milieu plutôt évangélique. Et ce qui me plaisait particulièrement, c'est que c'était accepté en fait dans la société, et valorisé et reconnu, et de voir des personnes non chrétiennes qui disent juste waouh quand ils reçoivent une action de charité qui viennent d'une église, je trouve ça juste magnifique. Et je pense que c'est comme ça que je me suis mis en marche dès le plus jeune âge. Et je suis d'avis qu'il faut encourager des tout petits à donner, à faire. Et puis c'est pas faire une BA, faire la bonne action, c'est vraiment un état d'esprit, comme tu as dit, c'est être au bon endroit avec les bonnes personnes. Et c'est aussi une joie qu'on a de la peine à exprimer, et il ne faut pas faire pour cette joie que ça procure, mais vraiment, il faut faire avec cette joie, et il faut essayer de le communiquer au mieux.
C'est trop bien, merci, merci. Pauline, revenir avec toi, tu as développé au travers du skateboard un espace pour accueillir, aimer, encourager, valoriser, en particulier les filles et les femmes. Est-ce que pour toi, le lien avec cette dimension de rayonner en tant que disciple, c'était une évidence dès le départ? Est-ce que c'était une chose qui, par la suite, tu t'es rendu compte, ah, mais en fait, c'est pas mal, en fait, ça, je peux aussi. Ça, c'est ma première question pour toi.
Du coup, quand j'ai commencé avec Nathania, une autre fille qui est à Home, ce projet, c'était pas vraiment un projet à la base, c'était juste qu'on a découvert le sport du longboard dancing. Si vous avez des questions, vous pouvez venir vers moi après. qu'on a trouvé juste incroyable, ça nous a vibré, et on avait envie de le partager avec nos amis. Donc ça a commencé comme ça, on a fait des initiations avec nos amis, ensuite il y avait les amis de nos amis, et puis ça s'est vite développé. Et en fait, c'est seulement par la suite, où j'ai pu, enfin plusieurs mois plus tard, que j'ai pris du recul et que j'ai réalisé que, en fait, cette passion pour le sport, pour le longboard et pour les gens, c'était Dieu qui avait mis cette passion en moi et cette facilité aussi peut-être dans ce sport-là. Et que, en fait, c'est un peu comme dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, je crois, que Dieu nous donne des talents, il nous donne des choses dans notre vie et qu'il veut les multiplier, il veut les utiliser pour son royaume. Et du coup, c'est vraiment plus tard que j'ai réalisé ça et que je me suis dit, waouh, en fait, Dieu, tu m'as placé dans ce sport-là, dans cette communauté-là, pour aider, pour encourager les femmes, et que voilà, le longboard, le sport, c'est un outil incroyable pour pouvoir rejoindre les gens, pour pouvoir des gens avec qui tu communiquerais pas forcément dans un autre contexte, pour pouvoir aussi encourager les personnes, et que voilà, que ça venait de Dieu en fait. Donc c'est pas quelque chose que je le fais aussi parce que j'aime ça, j'aime ce sport, j'aime être avec les gens, et je pense que ça c'est aussi quelque chose que Dieu a mis dans ma vie. Mais ça me demande beaucoup aussi d'intentionnalité, de me dire ok, ben Seigneur, tu m'as placé là, tu veux m'utiliser, qu'est-ce que tu veux faire, voilà, quand je vais voir, je sais pas, si je donne un cours de longboard, ben me dire ok, il y a plus que ça en fait, c'est pas juste ce sport, le longboard, mais que tu veux m'utiliser, que j'ai ce temps privilégié avec cette personne là, que cette personne elle est avec moi, donc finalement elle est elle touche à la présence de Dieu, parce que de réaliser que Dieu est en moi et que je suis ambassadrice de son royaume, de ses valeurs. Et je pense que c'est quelque chose que je dois réaliser, et puis me souvenir tous les jours, en fait.
Et là, moi, c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans ce que toi, tu vis. C'est ce côté très créatif, finalement, qui sort peut-être... Ben, c'est pas forcément quelque chose... Si on t'avait dit, Pauline, tu dois apprendre une nouvelle langue, tu dois partir dans un pays, puis t'es là, bon, OK, je le fais parce qu'il faut. Mais là, ça vient plutôt de toi. Si tu devais donner des conseils à des gens, comment est-ce qu'ils peuvent être créatifs pour vivre ce mandat, ce serait quoi ton conseil à toi? Et puis après, la question s'étend aussi pour les autres.
Très bonne question. Je dirais déjà de réfléchir à c'est quoi, quelles sont les choses qui te font vibrer, c'est quoi tes passions, les choses aussi dans lesquelles tu as de la facilité. Et si tu n'es pas forcément consciente de ça maintenant, de prendre vraiment le temps de réfléchir à ça et de prier pour ça, que Dieu puisse... venir te parler par rapport à ça, et puis de prier, de voir si Dieu veut t'utiliser dans tes dons, dans ce qu'il a placé dans ta vie, et puis aussi réfléchir à est-ce que tu as peut-être autour de toi des injustices sociales, des choses qui sont lourdes, des fardeaux que tu as dans ta... Enfin, tu sens ce fardeau pour les gens autour de toi, ça peut être pour les personnes migrantes, pour les personnes dans la rue, etc. Et de dire, ben, en fait... S'il y a encore ces besoins-là, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire. Et du coup, aussi prendre le temps de prier, de dire, est-ce que je serai une partie de la solution? Est-ce que je peux aider et apporter ce que j'ai, ce que Dieu a mis dans ma vie pour utiliser ce fardeau-là et d'en faire quelque chose? Et moi, ce qui m'inspire, c'est d'écouter des podcasts ou des témoignages de personnes entrepreneurs, entrepreneuses qui ont vu un besoin, qu'il y avait des choses qui manquaient dans ce monde et qui, du coup, on crée quelque chose pour combler ce besoin-là. Et ça demande des fois du courage de se dire, OK, parce que souvent on peut se dire, ah, mais est-ce que c'est moi qui dois faire ça? Est-ce que, je sais pas, j'ai peut-être pas le temps, tout ça. Et puis juste d'avoir ce courage de se lancer. Mm-hmm. Et de se dire, en fait, il ne faut pas que j'attende que les autres le fassent parce que peut-être que personne ne le fera. Et du coup, d'y aller. Donc voilà, je pense que c'est pas vraiment une recette pour la créativité, mais de dire qu'est-ce que Dieu a mis en moi et comment est-ce que, avec ce que j'ai en moi, comment est-ce que je peux apporter le royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu autour de moi.
Trop bien, merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Comment être créatif?
Mais en fait, je crois des fois faut juste faire confiance, et puis c'est un peu dans nos qualités naturelles. Enfin, je sais que il y a plein de sportifs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, mais c'est pas moi qui vais le faire. C'est pas mon monde, le sport, vraiment pas. mais par contre, il y a d'autres choses où naturellement je le fais. Enfin, là, je sais pas, j'ai mes trois meilleurs potes des études. Là, on se voit régulièrement ces derniers temps pour parler de la Bible. Ils sont méga intéressés, ils se rapprochent de Dieu et tout, c'est trop cool. Mais à aucun moment, j'ai l'impression de les avoir, entre guillemets, évangélisés. C'est genre... juste en étant avec eux, puis ils m'ont vu dans tous les états de ma vie. Après, ça fait des années qu'on se connaît. Et puis voilà. Et le Saint-Esprit est avec. Et puis, ça fait juste du bien. C'est rassurant aussi. Voilà.
J'aime beaucoup dans les deux choses que vous avez dit, Naya Garde, ce que tu veux dire. Mais parce qu'il y a ce côté où finalement, c'est plus une action externe à qui je suis que je dois essayer d'imposer ou forcer ou dans lesquelles je dois rentrer. Mais c'est plutôt... je dois pleinement être qui je suis. Et ça prend ce côté d'être ambassadeur, ça prend ce côté d'être conscient de la présence de Dieu qui est là, et puis d'être désireux que cette présence, elle s'étende au-delà de moi. Et j'aime ça. Ben, vous n'avez pas de la charité, mais je trouve la générosité de dire, en fait, j'ai des amis qui ne vont pas bien. Je peux prendre du temps pour les accueillir. Je peux les écouter. Je peux discuter avec eux en étant vrai. C'est-à-dire en parlant aussi de ma vision du monde, de ma perspective sur ces choses-là, sans entrer dans un projet d'évangélisation de mes amis. Et ça, je crois que c'est une clé vraiment importante. Ouais. Anaya, tu voulais dire ?
Ouais, je voulais dire aussi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire des faux pas. J'ai l'impression que souvent, les gens ne veulent juste pas se lancer de peur de faire faux ou peur de ne pas avoir assez d'impact et que ça ne serve à rien. Et je pense qu'il n'y a pas de ça, en fait. Et ce mandat, comme tu disais, il s'adresse à chacun d'entre nous. Et c'est une responsabilité collective et partagée, en fait. Et dans la créativité, tu faisais aussi le parallèle avec la parabole des talents. Et une fois, un pasteur disait, en fait, il faut regarder l'attitude. Et celui qui ne fait pas fructifier le talent qu'il a reçu, en fait, c'est qu'il est paralysé par la peur. Et je pense que souvent, on a cette paralysie qui nous empêche de passer à l'acte. Et je pense que des fois, on est vraiment appelé à sortir de notre zone de confort. Et pour ma part, c'est de venir ici ce matin sur la scène. Et à un moment donné, en fait, Dieu il nous demande de sortir de la barque, marcher sur l'eau et juste lui faire confiance. Et c'est là qu'on sent vraiment en fait, qu'il agit. Et ce n'est pas agréable sur le moment, mais ça vaut la peine d'être vécu. Voilà.
C'est trop bien, on peut l'encourager. Comment ? J'aimerais terminer justement avec une question dirigée pour toi, Anaya. Cet après-midi, avec Love Lausanne, on va essayer de répandre justement de l'amour. C'est aussi un partenariat avec aussi l'activité de longboard de Pauline. Donc, pour ceux qui ne savent pas, cet après-midi, c'est trop tard. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste. Oh, c'est pas trop tard.
Jamais trop tard.
C'est jamais trop tard. Cet après-midi, on va avec Love Lausanne justement à l'EVAM pour animer avec du skateboard, enfin du longboard, avec aussi des ateliers de bricolage. Il y aura aussi l'espace pour accueillir des enfants, puis leur donner un peu de joie, puis simplement les entourer dans cette période. Mais ça, c'est Love Lausanne. Et puis, Love Lausanne, on l'a toujours voulu, non pas comme un projet d'évangélisation, justement, mais comme une extension de l'amour pour le monde, exactement dans ce que tu disais. On ne veut pas être dans un communautarisme où c'est juste entre nous, mais on veut étendre cet amour de Dieu avec des idées pratiques, des idées concrètes, des idées diverses et variées. Et puis, Anaya, moi, je voulais savoir un peu, toi, est-ce que... Raconte-nous une joie, raconte-nous une pépite, un moment avec Love Lausanne. Tu dis ça, j'ai envie de le graver puis de le garder. C'est un moment incroyable.
Déjà, la joie, je dirais, c'est vraiment ce qui nous anime. Et puis, quand on prépare les actions, quand on a ses idées, etc. Donc, je dirais, ça, c'est vraiment déjà la base qui nous anime. Et ensuite, c'est vraiment des échanges avec des personnes qu'on n'aurait jamais pensé rencontrer ou des personnes qui, d'un coup, s'interrogent sur la raison pour laquelle on fait ça. Et puis... Ouais, à voir comment les gens arrivent à leur propre conclusion. Comme tu disais, on ne parle pas directement de Jésus. On dit qu'on est une église, ça c'est clair et net. On dit en quoi on croit, mais on essaye d'accueillir et d'avoir cet espace d'écoute où des personnes viennent et juste parlent et sont touchées d'être écoutées. Et moi, je crois que c'est ce qui m'a le plus touchée, de me dire que dans la rue, lors d'une nightlife, plusieurs personnes m'ont dit « je me suis rarement sentie entendue et écoutée ». Et ça, pour moi, c'est des petites pépites que je garde et qui font aussi qu'à chaque fois, on a la joie d'y retourner.
Magnifique. Moi, j'ai une frustration. Ma question, c'est est-ce qu'elle est partagée ? C'est que des fois, j'ai l'impression que les gens sont peut-être moins désireux de participer ou de venir avec des idées pour Love Lausanne ou quoi. Et petit moment de confession, je suis surpris de voir plus de gens à l'extérieur de l'église me parler de Love Lausanne qu'à l'intérieur de l'église. Et moi, il y a une frustration que je suis en train de dealer avec Dieu, de me dire, mais pourquoi est-ce que les gens à l'intérieur de l'église ne sont pas plus désireux d'embarquer dans ce genre de projet où littéralement, s'il y a un lieu où tu peux vivre le mandat d'aimer ton prochain, c'est celui-ci. Est-ce que c'est une frustration qui est partagée pour toi aussi? Est-ce que tu as des réponses à m'aider, moi, à processer avec ça en me disant, voilà pourquoi il y a ça qui se passe?
Je rejoins ta frustration et c'est vrai que des fois, je me dis, mais est-ce qu'on n'arrive pas à communiquer cette joie? Ou alors peut-être qu'on ne témoigne pas assez sur ce qu'on vit, parce que je pense en fait que le terme mission, ça peut faire peur et beaucoup de personnes ne se sentent pas à la hauteur, ils ne connaissent pas assez bien, je ne sais pas, la manière d'exprimer ci, ça. Et je pense qu'il y en a qui se mettent beaucoup de pression. Et pour ça, j'ai vraiment envie de dire, il y a zéro pression. C'est des actions qui sont accessibles à tout le monde et chacun fait à son niveau. Et après, ça fait aussi un petit peu peur parce qu'effectivement, on a une responsabilité, mais ça montre aussi la confiance que Dieu met en nous d'apporter plus loin la bonne nouvelle. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste parce que souvent, les gens qui ne se sentent pas concernés, c'est des gens qui ont suffisamment de problèmes en fait, à dealer avec eux et ils disent « mais j'ai déjà tellement de problèmes, moi, qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un d'autre ?» Et ça, je trouve ça terriblement triste parce que souvent, moi, ça m'est arrivé des moments où j'étais là, j'ai le Lausanne, mais voilà, je suis fatiguée ou je ne suis pas à fond, je ne suis pas bien. Et en fait, c'est dans ces moments-là où c'est moi qui recevais même davantage. Et je trouvais ça génial de dire, en fait, c'est un mandat qui est inconditionnel. Il ne dépend pas de si tu te sens en haut, si tu te sens en bas, de comment tu te trouves, tu y vas. Mmh. Et puis, aller pour un premier petit pas, ça peut être déjà sourire aux gens dans le bus. Après, ça peut être une étape supplémentaire, parler à un voisin ou des petites choses comme ça. Et puis, c'est graduel, mais je pense qu'il faut vraiment se lancer sur ce premier petit pas pour tester. C'est un mandat, c'est vraiment une obligation de moyens et pas de résultats. On met les moyens à disposition, mais le résultat, c'est le Seigneur qui s'en charge. Come on. En fait. Et j'aime bien dire, on plante des petites graines, en fait. On est vraiment des jardiniers. On fait ça simplement, sobrement. Et après, le Seigneur fait le reste. Voilà.
C'est incroyable. Merci beaucoup pour ce temps, pour vos cœurs, pour ce que vous faites. J'espère que ça vous inspire à entrer dans cette dimension de la mission. J'espère que vous avez à cœur de commencer par sourire, voir votre prochain déjà. Ça commence là. Et puis laissez Dieu vous utiliser là où il vous a placé avec les dons et les talents qu'il vous a donnés. Vous n'avez pas besoin d'être un d'eux. Vous n'avez pas besoin de venir sur cette scène. Vous avez besoin d'aimer Dieu et puis d'aimer votre prochain tout simplement en fait.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.